Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le problème du Liban, c'est régler les problèmes des gens et dégager ceux qui ne savent pas le faire. Propos signé Emmanuel Macron, le président français qui estime nécessaire de changer le leadership au Liban. Les ministres des Affaires étrangères du G7 évoquent un crime contre l'humanité après les mesures prises par les talibans contre les femmes en Afghanistan. Le Fonds monétaire international annonce une nouvelle tranche d'aide de 343 millions de dollars à destination de la Jordanie. La fête de Noël, dimanche prochain, regarde votre édition sur les chrétiens d'Orient. Notre invité sera le directeur de l'œuvre d'Orient, Monseigneur Pascal Gollnisch. Le 15e Festival National du Théâtre Professionnel s'est ouvert à Alger. Nous y reviendrons avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Le préavis de grève à la SNCF est levé pour le week-end du Nouvel An. Les syndicats ont signé un accord avec la direction. Vacances présidentielles, effondrement économique, la situation au Liban préoccupe le chef de l'État français, Emmanuel Macron, pour qui il est nécessaire de changer le leadership du Liban et de dégager, selon son propos, les responsables politiques qui bloquent les réformes. C'est ce qu'il indique dans un interview accordé à 3 médias, le président français pour qui il faut restructurer le système financier, puis faire un plan avec un président honnête, un premier ministre honnête et une équipe qui va dérouler ce plan et qui aura le soutien de la rue, dit-il. Emmanuel Macron, qui revient de la conférence régionale sur l'Irak organisée en Jordanie, il indique qu'il va travailler dans les prochaines semaines sur un format similaire avec le Liban. Le Liban qui est sans président depuis la fin du mandat de Michel Aoun le 31 octobre dernier. Les députés se sont déjà réunis à 10 reprises sans pouvoir élire un nouveau chef de l'État. Les ministres des Affaires étrangères du G7 évoquent un crime contre l'humanité après les mesures prises par les talibans contre les femmes en Afghanistan. Les ministres appelle le régime taliban à revenir sur sa décision d'interdire aux femmes d'étudier à l'université. Il dénonce une politique visant à effacer les femmes de la vie publique. Gros plan sur les chrétiens d'Orient à l'approche de la fête chrétienne de Noël dimanche prochain, sur leur situation dans les pays du Proche et du Moyen-Orient et sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Entretien avec le directeur de l'œuvre d'Orient, Monseigneur Pascal Gollnisch.
La fête de Noël, elle les concerne au premier chef, puisque c'est de l'Orient qu'est venue la lumière de Noël. Et si nous fêtons Noël, c'est parce qu'il s'est produit quelque chose à Bethléem, et c'est bien cela que nous fêtons. Alors, ces chrétiens d'Orient sont en difficulté, d'abord parce qu'ils connaissent les difficultés de l'ensemble des pays où lesquels ils se trouvent. La région du Moyen-Orient, l'Éthiopie et l'Érythrée, l'Ukraine bien sûr, ce sont les difficultés globales des populations, mais en plus, au sein de leur propre pays, ils ne sont pas encore reconnus comme des citoyens à part entière, avec les droits que peut avoir tout citoyen, dont la liberté religieuse, dont je rappelle qu'elle fait partie de la Déclaration des droits de l'homme, de la Charte des Nations Unies, et cette pleine liberté religieuse n'est pas encore respectée au Moyen-Orient. Les persécutions, il y en a de manière sporadique, mais généralement, ils sont confrontés plutôt à des discriminations. Mais les discriminations, ça peut être lourd, c'est pas simplement des choses superficielles. Ça veut dire que dans votre propre pays, vous n'avez pas les mêmes droits que les autres. Il y a encore tout un chemin à faire pour que ces chrétiens soient respectés dans leur propre pays. Je rappelle quand même que la fête de Noël, c'est aussi que la Sainte Famille a été exclue de la maison commune, que Marie n'a pas pu enfanter sous un toit, qu'elle a dû aller se réfugier avec les animaux. C'est ça aussi le scandale de Noël. Ce n'est pas simplement une réalité attendrissante, c'est une réalité aussi scandaleuse d'exclusion. Eh bien, les chrétiens sont souvent mis en dehors de la maison commune, alors que, après tout, ce sont les habitants les plus anciens de différents pays où ils se trouvent.
Et le fait qu'ils sont souvent minoritaires dans les pays dans lesquels ils vivent, cela explique cette situation pour vous ?
Oui, bien sûr, il y a le fait minoritaire, c'est jamais facile dans un pays d'être minoritaire. C'est le fait aussi qu'une partie extrémiste du monde musulman, finalement, ne comprend pas la présence de chrétiens au Moyen-Orient. Et par conséquent, ils paraissent comme des intrus, comme des gens en voie de disparition, comme si les chrétiens n'étaient pas aussi chez eux au Moyen-Orient. C'est une réalité du Moyen-Orient, mais Il faut dire aussi que dans d'autres régions, les conflits se font entre chrétiens. C'est le cas entre la Russie et l'Ukraine, c'est le cas en Éthiopie dans cette terrible guerre civile, c'est le cas en Érythrée où il y a un régime tout à fait ubuesque, mais les gens qui le mettent en œuvre, ce sont des gens sociologiquement chrétiens. Par conséquent, il faut dire aussi que dans certaines situations, les chrétiens ne se donnent pas les moyens d'avoir suffisamment de liberté spirituelle pour contrecarrer les projets de violence. Donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire, de mission pour les différents groupes religieux, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs, pour avoir suffisamment de liberté pour résister aux forces de violence et aux forces du mal.
Existe-t-il des régions ou des pays de cette région dans lesquels la cohabitation peut être considérée comme exemplaire ?
C'est le Liban. C'est finalement au Liban, quoi qu'en pensent certains du système confessionnel, que l'équilibre confessionnel, en tout cas, a permis une véritable liberté religieuse pour les citoyens libanais. C'est le seul qui a réussi à faire vivre cet équilibre, justement. Et donc, plutôt que d'accabler le Liban, on ferait bien de s'inspirer parfois de ce modèle.
Au sein de l'œuvre d'Orient, plus de 400 établissements bénéficient de votre soutien, du soutien de l'œuvre d'Orient pour la scolarisation des enfants pauvres. Est-ce que, justement, vous pouvez nous faire part de cette mission importante qu'est cette mission éducative que vous menez ?
Oui, c'est la mission originelle de l'œuvre d'Orient. Au départ, en 1856, nous avons été appelés l'œuvre des écoles d'Orient. D'abord, l'éducation, c'est toujours le meilleur rempart contre toutes les formes de fondamentalisme. Fondamentalisme, l'extrémisme, le radicalisme se nourrissent d'un manque de formation des personnes. Mais en même temps, en Orient, les écoles sont de vrais lieux de vie. Nous avons là de véritables relations sociales qui se nouent autour de l'école. Et il y a des villes dans lesquelles vivent des chrétiens et des musulmans et qui vivent en paix parce que les parents, les familles se retrouvent ensemble dans l'école, autour de l'école. Et dans des régions où il y a des problèmes d'alimentation de la population, ce sont souvent les écoles et non pas les mairies qui distribuent des colis alimentaires. Par conséquent, l'école, c'est un lieu de citoyenneté, un lieu de vie, et il est essentiel pour les différents pays dans lesquels ces écoles se trouvent. Je rappelle qu'il y a 400 000 élèves dans les écoles chrétiennes francophones, des chrétiens mais aussi des musulmans, des riches et des pauvres, et nous soutenons ces écoles, et d'ailleurs l'État français lui-même a compris l'importance de ces écoles et nous accompagne dans ce soutien.
Un soutien notamment dirigé vers les écoles francophones libanaises qui ont connu de graves difficultés.
Oui, bien sûr, il y a un réseau tout à fait extraordinaire d'écoles chrétiennes libanaises, là aussi des élèves chrétiens, des élèves musulmans, etc., dont la vie est essentielle à la survie du Liban. Pour un Libanais, pour des parents libanais, la formation, l'éducation de leur enfant, c'est quelque chose d'absolument prioritaire. Si ce réseau d'écoles s'effondre, comme c'est à craindre, comme c'est une possibilité qui peut surgir, eh bien, à ce moment-là, ils n'auront plus de raison de rester au Liban et ce sera la fin du Liban. Et si c'est la fin du Liban, c'est la fin d'un modèle où précisément les religions peuvent coexister, les chrétiens, les sunnites, les chiites, peuvent coexister paisiblement. Donc il y a vraiment un enjeu tout à fait essentiel de soutenir les écoles du Liban. Nous y sommes extrêmement engagés, en effet, grâce à la générosité de nos donateurs, et je crois qu'il y a là un travail de qualité, de profondeur qui se fait.
Comment évolue la prise de conscience de la situation des chrétiens d'Orient ces dernières années ?
Il y a un certain découragement, une angoisse de l'avenir, un sentiment d'impuissance devant parfois des situations de corruption, des situations de sectarisme qui empêchent le fonctionnement normal des États et par conséquent la non prise en compte de véritables souffrances de la population. Donc on sent un grand écart entre ce que vivent les gens au quotidien et puis un certain nombre de notables qui luttent entre eux pour l'exercice du pouvoir, ce qui est tout à fait lamentable. D'ailleurs, les responsables chrétiens ont dénoncé, en particulier le patriarche Reis, sa béatitude, patriarche des Maronites, a dénoncé avec force ce décalage entre des gens qui luttent pour leur pouvoir, pour leur puissance, et puis les populations qui sont délaissées, qui sont abandonnées. Et vraiment, il y a un problème de désespérance dans la population libanaise et dans les populations du Moyen-Orient en général. Cette région ne peut pas rester indéfiniment sur le bord de la route du développement, international. Partout, les pays progressent. Il ne peut pas y avoir simplement qu'au Moyen-Orient qu'il y a une stagnation, une régression, et un découragement, une désespérance et une angoisse sur l'avenir qui est terrible.
Le pape François est particulièrement sensible à cette question, à cette situation au Moyen-Orient.
Oui, on peut vraiment dire que le pape François a été le pape qui a le plus sillonné le Moyen-Orient. Il est allé plusieurs fois en Égypte, il est allé en Jordanie, en Palestine, en Israël, il est allé en Turquie, il est allé dans les pays du Golfe, le premier pape à aller dans les pays du Golfe. Il est allé d'ailleurs aussi en Arménie, un peu plus loin que le Moyen-Orient. Donc vraiment le pape n'a pas ménagé ses efforts pour aller dans ces pays. On sait qu'il souhaite se rendre au Liban, mais encore faut-il qu'au Liban il y ait des autorités publiques pour le recevoir. Le pape ne peut pas aller dans un pays s'il n'y a pas clairement un président et un gouvernement en place. Mais vraiment le pape, on le sait, porte dans sa prière les détresses de l'Orient, des chrétiens, cela va de soi, mais aussi de l'ensemble de la population, et il a été véritablement reconnu et respecté par tous les musulmans des pays dans lesquels il est allé, et spécialement en Irak. Son voyage en Irak a été d'une grande portée spirituelle et symbolique, ce qui fait d'ailleurs qu'en Irak, le jour de Noël sera un jour férié, les autorités l'ont décidé, après la venue du pape. Donc vous voyez que symboliquement, ça reste un acte très fort.
Le directeur de l'œuvre d'Orient, Monseigneur Pascal Gollnisch. Le Fonds monétaire international annonce une nouvelle tranche d'aide de 343 millions de dollars à destination de la Jordanie. Une annonce faite à l'issue d'un cinquième examen du programme d'aide mis en place. Ce nouveau déboursement porte à 1,7 milliard de dollars le montant de fonds alloués à la Jordanie depuis le début du programme en 2020. Un attentat suicide au Pakistan a provoqué la mort d'au moins un policier. C'est arrivé dans la capitale, Islamabad. Les pompiers marocains ont maîtrisé hier soir un gigantesque incendie. Le sinistre s'est déclaré dans un grand dépôt de gaz près de Casablanca. Un incendie qui n'a pas fait de victimes. Les maisons avoisinantes ont été évacuées. Le début aujourd'hui du 15e Festival National du Théâtre Professionnel à Alger. Il aura lieu jusqu'au 1er janvier prochain. Pour nous en parler, Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
C'est l'un des festivals les plus importants en Algérie, c'est le Festival National du Théâtre Professionnel d'Alger, qui aura lieu du 23 décembre au 1er janvier 2023. Habituellement, ce festival se tient toujours à la fin de l'année. Il y a une trentaine de spectacles qui sont prévus, dont 13 dans la catégorie officielle, c'est-à-dire dans la compétition. Et le reste, c'était en hors compétition ou au festival de la rue. Le festival de la rue est plutôt le théâtre de la rue. Les autres, c'est le théâtre de la rue. Le théâtre de la rue est très, très présent en Algérie, notamment dans certaines villes où il y a beaucoup de jeunes qui commencent par ce genre d'expression, notamment Sidi Bel Abbès, Bourj Boualerije, Oran et d'autres villes. Les compétitions auront lieu au Théâtre National Mahidine Bechtarzi à Alger, c'est le TNA, c'est l'un des plus prestigieux théâtres en Algérie. Les compétitions auront lieu donc chaque jour dans l'après-midi. Il y a un jury qui est composé de comédiens et un universitaire, c'est Mohamed Ben Issa, qui est le président du jury, avec d'autres comédiens dans ce jury, notamment Adil Aswalem, qui est une comédienne très connue en Algérie. Il y a aussi des ateliers, puisqu'il y a une forte demande pour la formation aux arts dramatiques durant le festival, notamment pour l'éducation vocale, pour la critique théâtrale pour les journalistes, la musique ou l'utilisation de la musique dans le théâtre. ainsi que l'art de la parole, ce qu'on appelle le hakawati. En Algérie, il y a aussi des débats qui ont lieu durant le festival, notamment sur le rapport entre le roman et le théâtre, puisque beaucoup de théâtres en Algérie sont maintenant inspirés de textes de romans, comme ceux de Wassine El Arraj ou de Amin Zawi ou de Rabia Jalti. Et aussi, il y a un hommage qui est rendu à Taha El-Amili, qui est le doyen des comédiens algériens. Taha El-Amili était dans la troupe du FLN, le Front de Libération Nationale, durant la guerre de libération nationale, entre 1954 et en 1962. En plus, évidemment, tous les spectacles en compétition sont suivis de débats critiques avec la présence du public pratiquement tous les jours. Donc on s'attend à une participation de 400 à 500 personnes entre comédiens, techniciens, metteurs en scène, dramaturges, critiques durant ce festival qui va donc être clôturé le 1er janvier avec des prix, puisqu'il y a des prix qui sont accordés dans le prix du meilleur spectacle, le prix du meilleur comédien, le prix de la meilleure comédienne et le prix de la meilleure scénographe.
Et comment se porte cet art aujourd'hui en Algérie et comment se portent les théâtres régionaux?
Oui, en Algérie, il y a 18 théâtres régionaux et aussi il y a beaucoup de coopératives dans le théâtre, ce qu'on peut appeler le théâtre indépendant, le théâtre privé. C'est un genre de théâtre, c'est l'un des arts les plus développés en Algérie puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent vers ce théâtre. Certains pensent que c'est la meilleure école pour le comédien parce qu'on commence par le théâtre, notamment dans plusieurs régions. Il y a aussi des festivals, en dehors du festival national, il y a des festivals régionaux, notamment Sidi Bel Abbès à Guelma, Sidi Bel Abbès à l'ouest, Guelma à l'est. Aussi, il y a le festival du théâtre pour enfants à Khachla, le festival de la marionnette à Aïn Témouchent, le festival du théâtre féminin à Annaba. Donc, il y a des festivals un peu spécialisés, thématiques. Et aussi, il y a une école de formation des arts dramatiques qui était à Borj El Kifen. Et maintenant, il y a des appels pour qu'il y ait plus d'écoles, notamment en formation aux arts dramatiques dans plusieurs régions du pays, puisque beaucoup de jeunes arrivent donc vers cet art, pensant que c'est la meilleure porte pour aller, si vous voulez, vers la télévision ou vers le cinéma.
Faisal Metaoui, journaliste à 24h Algérie. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr à Radio Orient à 13h30, votre journal en langue arabe, présenté par Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. À l'occasion de Noël, dimanche prochain, l'invité de Pluriel, ce soir à 19h et 23h, sera le frère et prêtre catholique Jean-François Bourg, directeur du service national pour les relations avec les musulmans au sein de la Conférence des évêques de France. Émission présentée par Loïc Barrière. Il est midi 17. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.